tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
La prochaine série d'articles s'inscrit dans le cadre du troisième volet de ce numéro de « Manière de voir », consacré au progrès en procès qui présente ainsi la thématique
« Éteignez les lumières, on y verra plus clair ».
Les artisans du retour à l'ordre sont séduisants et retors. Ils déploient les évidences du sens commun comme autant de vérités oubliées et retournent quelques-uns des combats de la gauche radicale au profit de leur lutte pour la restauration de bonnes vieilles valeurs qui représenteraient enfin la vraie modernité. La morale petite bourgeoise vient remplacer le politique. La nostalgie sert d'horizon.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1970-1980, vous entendrez de Yanis Xenakis, Sinafai.
Le mauvais esprit est à la mode. De l'historien de l'art Jean Clerc au romancier Michel Houellebecq, en passant par les chroniqueurs télévisuels, les ébouriffeurs de consensus ont un public toujours plus nombreux. Ils ne se réclament pas toujours de la droite, ce qui n'empêche pas, en revanche, la droite de les réclamer. D'autant que c'est la bien-pensance de gauche qu'ils mettent en boîte ou en cause. Ils sont souvent applaudis des deux bords, et c'est troublant. Qu'ébouriffent donc vraiment ces insolents qui aiment se présenter comme autant de francs-tireurs vaillamment minoritaires? Seraient-ils paradoxalement libérateurs pour trouver un écho, y compris chez ceux dont ils brocardent les convictions? Le cas de Philippe Muret est à ce titre emblématique. Naguère classé comme nouveau réactionnaire, les damnés de l'alter, comprendre les altermondialistes, ne le faisait frémir que d'exaspération. Cet essayiste disparu en 2006 est célébré comme un maître à penser, ou plus exactement à compenser. Antidote au conformisme. Contrepoids à la masse cosmique de bêtises qui nous entoure, selon feu Jean Baudrillard. Son œuvre permet de saisir les enjeux au cœur de cette multiforme dissidence avant qu'il ne soit recouvert par des brèves de comptoir. Muret, né en 1945, fait des études de lettres, choisit pour son mémoire de maîtrise de travailler sur Léon Blois, un grand imprécateur de la fin du XIXe siècle, qui se consacrait avec un talent saisissant aux causes perdues, écrit romans, essais, chroniques. Les périodiques qui les accueillent sont étonnamment divers, de la revue L'Infini dirigée par Philippe Solers au journal L'Idiot International du controversé Jean Edernallier, entre autres. Les recueils de ses chroniques le font accéder à une discrète notoriété grâce à l'invention d'Homo Festivus en successeur d'Homo Sapiens. Sapiens, le souriant bobo porté sur le commerce bioéquitable et l'association humanitaire croisée de l'éthique et fervent du vélo, abonné au festif par conviction citoyenne. Ce qu'il attaque avec une verve féroce, ce sont les manifestations de sensibilité d'une gauche autoproclamée moderne. Au-delà de la satire du politiquement correct qu'il a traduit, il expose comment la démocratie libérale, légitimée comme seule organisation politique respectueuse des libertés de chacun, tout particulièrement depuis la chute de l'Union soviétique, cherchait à s'accomplir en empire du bien. Une fétichisation du terme démocratie imposerait pour unique objet collectif valide d'œuvrer à concrétiser une utopie zéro défaut, où pourraient enfin se déployer les valeurs morales identifiée comme démocratique, celle qui relève du respect d'autrui. Ce serait le rôle du politiquement correct, inciter à être intensément vertueux pour être intensément citoyen, favoriser par là même l'extension des valeurs de progrès et réciproquement.
Au-delà de la satire du politiquement correct, chère à la gauche moderne, Muret expose comment la démocratie libérale s'érige en empire du bien.
Surenchère des grands sentiments. Les propos sarcastiques sur la charité généralisée, la solidarité sans réplique, les droits de l'homme dans tous les coins et le souci hygiéniste à chaque étage sont ordinaires chez les tenants de la droite. Or, si Muret déplore la transformation de la société en camp de boy scout et la prise de contrôle du genre humain par le surenchère des grands sentiments, ce n'est pas pour dénoncer le règne des assistés, mais pour souligner que ce consensus du vertueux est une machine à coincer les neurones, puisque toute distance par rapport à ces normes ne serait par définition qu'antidémocratique. Le pathos homogénéisateur remplace la pensée par un kit moralisant en noir et blanc qui rend quasi impossible de pouvoir supporter sans trépigner sur place l'exposé de quelques situations ambiguës. Par exemple, la progressiste reconnaissance des différences ne serait-elle pas potentiellement à double tranchant ? Affirmation du moi tribalisé puis globalisé, tout autant que respect humain ? De façon plus générale, le réel lui-même ne peut plus être toléré s'il contredit les postulats progressistes. Il n'est fréquentable que neutralisé en parc d'abstractions dûment consensuelles qui entreprennent de tout réconcilier, mélanger, effacer. En bref, pour Homo Festivus, toute pensée négative ou critique est maintenant le contraire de la pensée citoyenne et donc du côté de l'intolérance, du fascisme, de la xénophobie. En dehors de l'orthodoxie de la sensibilité de gauche, n'y aurait-il donc que réactionnarisme ? Muret raffole de l'excès, c'est la loi du genre. Mais il met en lumière un malaise que révèle entre autres l'usage flou mais immodéré des adjectifs populistes ou archaïques pour invalider tout ce qui s'oppose aux critères posés comme démocratiques. Faute de refuser toute dialectique, la définition implicite de la démocratie comme haine de la haine autorise à discréditer comme antidémocratique toute aspiration à un autre type de démocratie. Il suffit de se rappeler la campagne qui a accompagné en France le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Il est évidemment perturbant de pouvoir ainsi ne pas se trouver en désaccord avec un auteur dont la caractéristique est de refuser passionnément le progressisme. Il importe donc maintenant, avant d'examiner la portée de ce refus, de vérifier s'il est pertinent d'identifier progressisme et consensus. Or, les préceptes de ce dernier témoignent d'une manipulation des idées progressistes et non de leur déploiement. En effet, réduire l'idéal de progrès humain à un manuel actualisé de bonne conduite n'est pas seulement un exemple égayant de méthode couée. C'est surtout une vision de l'homme passablement conservatrice. En assimilant le progrès à l'élimination du négatif intérieur, ce qui incline l'humain à la domination, à l'exclusion. Ce progressisme autoproclamé suppose que le mal relève avant tout de vilains penchants innés qui s'inscriraient tout naturellement dans la société, ce qui est un des fondements de la pensée de droite. Les vilains penchants sont des potentialités subjectives en chacun, tout comme les bons d'ailleurs. En revanche, leur actualisation, non plus dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, découle concrètement de conditions socio-économiques qui construisent l'injustice et que valorisera une idéologie. Il n'y a pas là de fatalité ontologique.
Pour Homo Festivus, toute pensée négative ou critique est maintenant le contraire de la pensée citoyenne, est donc réactionnaire.
Retrouver le politique. Ce brouillage égarant des rapports entre l'individu et le collectif gomme le fait essentiel que le comportement individuel n'a d'effet sur l'ensemble social qu'en s'inscrivant dans un rapport de force collectif. À individualiser le mal, y compris social, cet idéal qui se réclame des forces de progrès ne peut proposer en définitive qu'une résignation attristée. On est tous les mêmes, tous pécheurs, mais déterminés bravement à atténuer le triomphe du péché congénital, curieusement plus tenace d'ailleurs chez les moins éduqués. Belle opération de transformation du monde politico-social en espace culturo-moral, décoration d'âme, qui ne s'attaque pas aux causes du mal extérieur, puisqu'il n'est que l'objectivation du mal intérieur, au cœur de l'homme éternel, mais s'emploie à en pomponner les manifestations et les conséquences. Muret se trompe en prenant pour progressisme ce qui n'en est que l'enveloppe vide. Le progressisme authentique a pour tâche de s'attaquer aux causes, d'analyser les conditions de production du mal et le sens culturel qu'il aurait donné. En bref, de retrouver le politique et non plus de l'effacer. Or, quand Terra Nova, club de réflexion proche du Parti socialiste et qui se définit comme fondation progressiste, postule dans un rapport intitulé « Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ?» que les valeurs de la gauche sont la tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité, la solidarité avec les plus démunis. Évidemment, cette gauche-là semble avoir été inventée pour lui. À présenter comme pierre de touche de la gauche le libéralisme culturel, pour citer Terra Nova, il est difficile de ne pas induire qu'en remplaçant, selon l'expression de Muret, le matérialisme dialectique par la pratique du bien, la question sociale se voit remplacée par une question de savoir-vivre, dont les ouvriers doivent manquer, puisque Terra Nova affirme qu'ils ne sont plus le cœur de la gauche. Muret n'est pas seul à conclure que les droits de l'homme ont progressivement servi à la gauche pour camoufler la disparition de toute doctrine, et qu'il fut un temps où être de gauche représentait un véritable travail et un combat de la pensée, et non un état de nature. Et puis peut-être que sans la droite, sans l'ersatz de droite qui la faisait exister en tant qu'ersatz de gauche, elle n'est plus grand-chose. Muret serait-il donc, surprise, un radical qui s'ignore ?
Muret s'arrête au constat en entérinant le refus de rechercher l'ennemi.
Rire grinçant et nostalgie. Il n'a, de fait, que la radicalité de sa contrariété. Car il a beau énoncer les contradictions du consensus, il en accepte en réalité les présupposés, puisqu'il n'a rien à lui opposer sinon le rire grinçant et la nostalgie. Il a beau repérer l'impasse créée par l'étouffement de tout conflit sous l'injonction moralisatrice, la volonté d'annulation du politique par sa supposée transformation en harmonie collective, il valide l'idée dominante que l'histoire est finie, qu'il n'y aura plus d'autre choix qu'entre des variétés d'homo festivus, celui qui dit oui. Oui aux initiatives qui vont dans le bon sens, au camp du progrès. Il s'arrête au constat en entérinant le refus de rechercher l'ennemi, le refus d'identifier le système économique comme embrayeur et acteur du mal. Parce que c'est précisément le libéralisme culturel qui l'enrage, non le capitalisme. Il se situe sur un plan qu'on peut qualifier d'existentiel. Lui importe ce qu'il perçoit comme la disparition programmée de l'homme doté de sens critique et capable d'accepter l'inquiétude, bien plus que ne l'anime le désir de contribuer à l'émancipation des dominés. Le peuple ne le préoccupe guère. La transformation concrète des rapports de force, pas davantage. Il travaille lui aussi dans le champ des valeurs culturelles, en miroir de ce qu'il démonte. C'est au nom d'une morale, teintée de supériorité aristocratique, qu'il s'insurge. Sa lucidité sur cette idéologie de la bonne volonté le mène à la lire comme un outil pour la mise à mort lente de la complexité de l'individu. Mais il lui échappe qu'elle sert aussi à faire oublier les antagonismes de classe. Il reste dans le même cadre de pensée, notamment parce qu'il n'y a pas pour lui d'au-delà de la gauche, festive, sinon le totalitarisme. Ainsi, le « politiquement incorrect » se contente d'écrire au verso du « politiquement correct ». Il présente néanmoins le vif intérêt de faire grincer un inconfort citoyen assez répandu, et parfois d'en exhiber partiellement les motifs. Si dans l'élan, il incitait à refuser que le progrès ne soit le remplacement du réel par un cliché réconfortant, en pensant jusqu'au bout les contradictions du consensus, la satire deviendrait alors irrécupérable. Sortant enfin du cadre, la subversion serait réellement progressiste.
Thank you. Thank you.